Attention, 30 secondes avant départ. Vous n'oublierez pas, bien sûr, de diffuser du sourire.
La chronique de Gilles Labouroir. Le sport entre histoire et société.
Cette semaine, les chroniques de Gilles s'intéressent aux différentes disciplines du ski alpin. Il existe 6 disciplines en ski alpin qui sont courues chaque année de novembre à mars en Coupe du monde de ski alpin et sont toutes présentes aux Jeux olympiques d'hiver et aux championnats du monde de ski alpin. Ce sont des courses contre la montre. Le skieur déclenche lui-même le chronomètre par l'ouverture d'un portillon et l'arrête au franchissement d'une cellule photoélectrique. Le coureur descend un parcours dessiné par des portes, délimité par 2 piquets, selon des distances établies par les règles de la Fédération internationale de ski. Il doit franchir toutes les portes. Les 6 disciplines sont les suivantes. La descente, le slalom spécial, le slalom géant, le super géant, le combiné et pour finir, le slalom par équipe mixte parallèle. Commençons par la descente. La descente est donc la plus vieille discipline sportive du ski alpin et est surnommée aujourd'hui la discipline reine. Ses parcours sont les plus longs des épreuves de ski alpin. La descente combine la vitesse à l'état pur, une maîtrise technique et un courage à toute épreuve. Aujourd'hui, les descendeurs atteignent dans leur course des vitesses de pointe de plus de 140 km/h. Le dénivelé est de l'ordre de 800 à 1100 mètres pour les hommes et de 500 à 800 mètres pour les femmes. Des portes sont très larges, matérialisées par 2 banderoles soutenues par des piquets. Des virages larges, des sauts, des compressions et de grandes lignes droites dessinent le parcours en fonction du modelé du terrain. De par le danger d'une telle course, les skieurs doivent s'entraîner plusieurs fois sur le parcours avant la course. Cela n'est vrai qu'en descente. Le vainqueur est celui qui réalise le temps le plus rapide. La largeur minimale d'une piste doit être de 30 mètres. La moindre petite erreur à ces vitesses et sur de tels parcours peut engendrer des sorties du tracé, une porte manquée étant éliminatoire, voire des chutes spectaculaires, des blessures et exceptionnellement des décès. La piste la plus célèbre est assurément la Streif à Kitzbühel en Autriche. La Streif est une piste extrêmement exigeante techniquement et physiquement, sur laquelle seule une descente homme est organisée. Les coureurs atteignent généralement des vitesses les plus rapides du circuit, entre 140 et 150 km, sur la piste de Wengen en Suisse. Les mesures de sécurité ne cessent de s'accroître depuis la fin des années 1950. Les arbres sont protégés par de grandes bâches. On utilise aussi des filets qui sont placés tout le long de la piste. La neige est préparée de nombreux jours avant afin qu'elle soit suffisamment lisse et glacée. Citons les grands descendeurs français, champions olympiques. En 1948, Henri Oreiller. En 1960, Jean Vuarnet. En 1968, Jean-Claude Killy. En 1998, Jean-Luc Crétier. En 2002, la Française Carole Montillet. Et en 2006, Antoine Denériaz. Au niveau international, cette discipline est dominée, et cela depuis de nombreuses années, par les Suisses. Les champions olympiques suisses, entre autres Pirmin Zurbriggen en 1988, Didier De Fago en 2010 et en 2022 à Pékin, Bitfuz. Nous abordons maintenant le slalom spécial. Emprunté à slalam, un mot issu du dialecte parlé dans le comté de Telemark en Norvège, le slalom désigne littéralement la piste le long d'une pente. Le premier slalom, ou slalom spécial, apparut en janvier 1922 à Muren, en Suisse. Il s'agit de l'épreuve la plus technique. Les slalomeurs ont besoin d'être agressifs, rapides et agiles. Les parcours de slalom sont les plus courts, mais ils comportent le plus grand nombre de portes et les portes les plus étroites. Ils sont espacés de 4 à 15 mètres et on en compte entre 40 et 75. Les portes sont matérialisées par 2 piquets simples, mais les piquets, montés sur rotule, peuvent être basculés par le skieur. L'épreuve comporte 2 manches disputées sur des parcours différents. Le skieur qui obtient le meilleur temps additionné des deux manches remporte l'épreuve. L'avènement des skis paraboliques ces dernières années a rendu le slalom beaucoup plus technique. En effet, les nouvelles formes de ski permettent de réduire le rayon des virages. Les portes de slalom ont tendance à être rapprochées tout en conservant l'écartement transversal. Il en résulte des virages plus courts que seuls les skis paraboliques permettent de suivre, tout en conservant une vitesse et une relance en sortie de virages importantes. Citons les champions olympiques français de la discipline. En 1964, Christine Guachel. En 1968, sa sœur, Marielle Guachel, ainsi que Jean-Claude Killy. En 2002, Jean-Pierre Vidal. Et en 2022, à Pékin, Clément Noël. Cette discipline a été dominée par de grandes références internationales. Un Suédois, Ingemar Stenmark, dans les années 80, et deux Italiens, Teoni, dans les années 1970, Gustavo Toni et Alberto Tomba, champion olympique en 1988. Nous abordons maintenant la troisième discipline, le slalom géant. Le slalom géant, qui apparaît en 1950 au championnat du monde de ski alpin à Aspen, au Colorado, est une discipline technique, comme le slalom spécial, mais qui est plus rapide. Les portes sont composées de deux piquets reliés par une banderole de couleur bleue ou rouge. Quoique d'apparence moins technique que le slalom spécial, le slalom géant requiert une grande précision, un bon sens du rythme et une bonne puissance pour aborder au mieux chaque virage. Comme son nom l'indique, le parcours d'un slalom géant est plus long que celui d'un slalom spécial. Les portes sont également plus espacées, ce qui donne des virages plus larges. Les skieurs doivent franchir un minimum de 30 portes distantes les unes des autres, d'au moins 10 mètres. L'épreuve officielle comporte maintenant deux manches, disputées sur deux parcours différents. Le skieur qui obtient le meilleur temps additionné des deux manches l'emporte. Le slalom géant se disputait sur une seule manche jusqu'à la fin des années 1960. Les principaux champions olympiques français, en 1964, François Bonlieu, en 1968, Jean-Claude Killy, mais aussi en 1964, Marielle Guachel. Parmi les meilleurs skieurs au niveau international, nous citons toujours le champion olympique Gustavo Toni, l'italien, en 1972, Ingemar Stenmark, le suédois, champion olympique en 1980, et enfin Alberto Tomba, l'italien, champion olympique en 1988. Nous passons maintenant à la quatrième épreuve, le super géant, ou super G. Le super G, ou donc super géant, créé en 1982 par un groupe d'experts, dont Toni Sailer, le triple champion olympique autrichien de 1956, à Cortina d'Ampezzo, en Italie, est, avec la descente, une des deux disciplines de vitesse. Les portes sont quasiment les mêmes que celles du slalom géant et de la descente. C'est un compromis entre la descente et le slalom géant, ce qui le rend plus technique que la descente, mais plus rapide que le slalom géant. Les participants doivent donc être très précis à haute vitesse pour enchaîner de grandes courbes. La dénivellation en super géant est légèrement moindre qu'en descente, mais le parcours est préparé sensiblement de la même façon. Contrairement à la descente, les compétiteurs ne peuvent pas s'entraîner à pleine vitesse sur le parcours avant la course officielle qui se dispute sur une manche unique. Comme ils disposent d'un temps de reconnaissance restreint, ils doivent savoir mémoriser rapidement tous les paramètres techniques de la course. Le premier super géant, gagné par le Suisse Pirmin Zurbriggen, fut testé sur les pentes de l'Alta Badia dans les Dolomites italiennes en décembre 1981, avant d'être introduit en décembre 1982 par le comité Coupe du Monde de la Fédération internationale de ski à l'occasion du critérium de la première neige de Val d'Isère. Le tout premier vainqueur en Coupe du Monde était le Suisse Peter Müller, champion du monde de descente ensuite en 1987 à Crans-Montana. Et le premier champion olympique de la discipline fut le Français Franck Picard en 1988 à Calgary, au Canada. Citons parmi les principales références le Norvégien Amott, qui a dominé la période champion olympique de 2002 et aussi en 2006, mais aussi l'Autrichien Matthias Hager, qui a lui aussi été champion olympique à deux reprises en 2018 et 2022. Nous abordons maintenant le combiné. Cette épreuve a été créée pour la première fois au championnat du monde de ski alpin en 1932. Autrefois, seul le combiné descente slalom comptait. Puis, les disciplines ont été séparées avec des titres décernés pour la descente, le slalom et le combiné de ces deux disciplines. Désormais, le combiné, renommé « super combiné », est une discipline à part entière, puisque les participants doivent réaliser une manche de descente ou super G, épreuve de vitesse, puis une manche de slalom, spéciale, épreuve technique, dans la même journée. Le total cumulatif des chronos des deux manches détermine le classement final. Cette épreuve permet de mettre en valeur les skieurs polyvalents qui savent jouer de leur vitesse dans la descente et rivaliser d'adresse et de technique dans le slalom spécial. Absent du programme des Jeux Olympiques d'hiver de 1952 à 1984, le combiné alpin est réintroduit aux Jeux de Calgary en 1988 au Canada. Il y a très peu de combinés lors d'une saison, car il est rare que les épreuves techniques et de vitesse aient lieu le même week-end. Le combiné redevient une épreuve indépendante lors des mondiaux de Schleimin, en Autriche, en 1982. Le français Michel Vion et la Suissesse Erika Hayes s'y imposent. Le calendrier de la Coupe du Monde comprend dorénavant plusieurs super combinés. Et un globe de cristal vient aussi récompenser les athlètes les plus brillants dans cette discipline sur l'ensemble de la saison. Mais cette discipline est en sursis, car elle connaît une désaffection de la part des athlètes. Cette situation pourrait remettre en cause son existence parmi les épreuves de ski alpin. L'épreuve de combiné ne figure d'ailleurs plus au programme de la Coupe du Monde depuis la saison 2020-2021. L'une des raisons serait la tendance à l'hyper-spécialisation des skieurs, descendeurs ou slalomeurs, alors que le combiné alpin exige d'être un skieur complet, d'où leur désintérêt pour cette épreuve. La discipline de combiné est néanmoins maintenue lors des Jeux Olympiques d'hiver de 2022 à Pékin, où ce sont Johannes Strolz, chez les hommes, et la Suissesse Michelle Gisin qui décrochent la médaille d'or. Toutefois, lors des championnats du monde de 2023 à Courchevel et Méribel, la discipline est également organisée, mais sans doute pour la dernière fois sous son format actuel. Ce sont les Français Alexis Pintereau et l'Italienne Federica Brignone qui remportent le titre dans leurs catégories respectives. On citera deux médailles d'or olympiques, celle de la Croate Jessica Kostelić, championne olympique en 2002 et 2006 de la discipline, et la Suissesse donc Michelle Gisin, championne olympique deux fois en 2018 et 2022. Enfin, nous terminerons par le slalom parallèle par équipe mixte. Pour mettre en avant l'égalité entre les sexes, la multiplication des épreuves mixtes est devenue un des piliers du programme olympique. Le slalom parallèle par équipe mixte s'est installé dans le paysage du ski alpin depuis presque une décennie. En reprenant certains éléments de l'ancienne Coupe des Nations, cette épreuve est désormais l'un des moments forts des championnats du monde, mais aussi des Jeux olympiques d'hiver depuis Pyeongchang en 2018 en Corée. Les 16 meilleures équipes sont réparties dans un tableau à élimination directe. Élimination directe qui va des huitièmes de finale jusqu'à la finale. Chaque équipe peut compter jusqu'à 6 skieurs, mais seulement 4 d'entre eux, 2 femmes et 2 hommes, sont alignés à chaque tour. Chaque confrontation entre pays est composée de 4 duels entre skieurs et se déroule comme suit, fille contre fille, garçon contre garçon, puis fille contre fille et garçon contre garçon pour terminer. Chaque manche remportée vaut 1 point. En cas de chute ou de faute des deux concurrents, celui qui est allé le plus loin gagne le point. Si à l'issue des 4 passages, le score est de 2 à 2, les temps de la meilleure femme et du meilleur homme sont additionnés et l'équipe la plus rapide l'emporte. En 2018, l'équipe championne olympique fut la Suisse. Et en 2022, c'était au tour de l'Autriche de devenir championne olympique.
C'était la chronique de Gilles Labouroir à retrouver en podcast sur le site d'Esprit Occitanie.